Bien, merci beaucoup Bernard. Alors, tu m'as piqué mon introduction, puisque je comptais partir moi aussi du fameux discours, fameux, bon même, il est peut-être un peu oublié maintenant, mais il faut partir de l'actualité des saints, hein, des derniers saints, c'est Paul VI, puisqu'il a été fait bienheureux. Et donc, c'est un discours tout à fait important, capital même, puisque c'est le discours de clôture du Concile, le jour où est promulguée notamment la déclaration sur la liberté religieuse, la déclaration Gaudium et Spes, etc. Et Paul VI, dans ce discours-là, va donc fixer son propre horizon d'interprétation, son propre horizon herméneutique, si on le dit avec des mots savants. Et donc, je ne vais pas relire, heureusement, t'as pas tout lu, et je ne vais pas relire tout le passage qu'il m'a laissé le plus beau. C'est-à-dire, après, Paul VI a quand même des formules qui, dans la bouche d'un pape, ont choqué parfois, et puis ont été tout à fait étonnantes, puisqu'il continuait en apostrophant le monde. Reconnaissez-lui au moins ce mérite, en apostrophant notamment les humanistes athées, il y en avait encore plein à l'époque. Hein. Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme, nous aussi, nous plus que quiconque, donc nous chrétiens, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Alors, qu'un pape dise que nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme, ça a choqué, ça choque encore parfois. Alors, il continuait. Tout cela, et tout ce que nous pourrions encore dire sur la valeur humaine du Concile, a-t-il peut-être fait dévier la pensée de l'Église en Concile vers les positions anthropocentriques prises par la culture moderne? Donc, après avoir dit qu'il y en a le culte de l'homme, est-ce que ça signifie que l'Église serait devenue anthropocentrique? Non, l'Église n'a pas dévié. Mais elle s'est tournée vers l'homme. Elle donne cette explication de l'homme précisément en vertu de sa science de Dieu. Pour connaître l'homme, l'homme vrai, l'homme tout entier, il faut connaître Dieu. Qu'il nous suffise pour le moment de citer à l'appui de cette affirmation le mot brûlant de Sainte Catherine de Sienne. Alors c'est un des mots les plus magnifiques de la mystique. C'est dans ta nature, ô Dieu éternel, que je connaîtrai ma propre nature. Hein, que l'homme, pour se connaître, a besoin de fixer Dieu. C'est dans ta nature, ô Dieu éternel, que je connaîtrai ma propre nature. Un chapeau pour Sainte Catherine de Sienne. Hein. La religion catholique est la vie, parce qu'elle décrit la nature et la destinée de l'homme. Elle donne à celui-ci son véritable sens. Elle est la vie, parce qu'elle constitue la loi suprême de la vie et qu'elle infuse à la vie cette énergie mystérieuse qui la rend vraiment divine. Mais, vénérables frères, et vous tous, chers fils ici présents, c'est le pape qui parle bien sûr, hein, si nous nous rappelons qu'à travers le visage de tout homme, spécialement lorsque les larmes et les souffrances l'ont rendu plus transparent, nous pouvons et nous devons reconnaître le visage du Christ, il citait ici Matthieu 25, le Fils de l'homme, et si sur le visage du Christ nous pouvons et nous devons reconnaître le visage du Père céleste, qui me voit, dit Jésus, voit aussi le Père, en citant Jean, cette fois-ci 14, notre humanisme devient christianisme et notre christianisme se fait théocentrique. Si bien que nous pouvons également affirmer, pour connaître Dieu, il faut connaître l'homme. Donc vous voyez, et c'était à peu près la fin de ce magnifique discours donc du bienheureux Paul VI. Et donc, comme vous voyez, nous avons le culte de l'homme. Il écartait évidemment, bien sûr, un humanisme complètement anthropocentrique, mais c'était pour expliquer ensuite comment notre humanisme devait être théocentrique. Alors donc ça serait le point de départ, le point culminant, on pourrait dire, d'un humanisme chrétien tel qu'il s'est affirmé donc dans le Concile Vatican II, dans la Constitution notamment, Gaudium et Spes, ou dans ce discours d'interprétation qu'en donne Paul VI. Et alors certains disent, c'est un trait de l'optimisme des années 60, Gaudium et Spes, tout ça y planait un peu, c'était l'époque de la conquête de la Lune, tout ça. On était tout à fait optimistes. Non, quand vous regardez le passage qu'a lu tout à l'heure Bernard, c'était bien l'homme, y compris dans ces éléments tragiques que le Concile a voulu contempler, pas uniquement le côté conquête de la Lune, hein, mais également dans ces éléments tragiques, c'est un Concile quand même qui est d'après Auschwitz et d'après Hiroshima, même si la conscience n'était pas encore entièrement aussi forte que ça. Et donc, le moment où le Concile se saisit de l'humanisme, on pourrait dire, où l'Église revendique l'humanisme, l'humanisme moderne, anthropocentrique, justement, ne va plus tellement bien que ça. Alors souvent, on se dit, l'humanisme, la Renaissance, il y a un côté prométhéen dans l'humanisme de la Renaissance, voler le feu aux dieux et que l'homme se débrouille tout seul. Donc l'anthropocentrisme était parti, cet humanisme anthropocentrique était parti au moment de la Renaissance, tout feu, tout flamme. Mais au moment où Vatican II sauve, on pourrait dire, l'humanisme, eh ben, il n'allait plus si bien que ça. On était d'après Auschwitz et d'après Hiroshima. Et sans même parler de ces événements majeurs, de deux guerres mondiales, des totalitarismes, de toutes ces expériences-là qui ont abîmé profondément le visage de l'homme. Ben, déjà, même au point de vue de la pensée, au point de vue de la culture, dès le 19e siècle, on pourrait dire que c'était abattu sur l'humanisme anthropocentrique, les pensées du soupçon. Alors j'en veux pour preuve, je voudrais vous rappeler deux textes classiques très célèbres, mais qu'on oublie de lire en série souvent, ils datent tous les deux de la même période pourtant, c'est-à-dire à peu près entre 1880 et 1885, ces deux textes majeurs de la réflexion sur l'homme. C'est d'une part Dostoïevski et ses frères Karamazov, et dans les frères Karamazov, la légende du grand inquisiteur, et puis d'autre part, quelques mois plus tard, le « Ainsi parlait Zarathoustra » de Nietzsche. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent, aussi bien Dostoïevski que Nietzsche? Ben, Dostoïevski, si vous vous rappelez ce passage-là magnifique, donc, la légende du grand inquisiteur, donc c'est un roman dans le roman, si vous voulez. Bon, Jésus revient donc à Séville et est arrêté au 15e siècle par un Torquemada, enfin, le grand inquisiteur de l'époque. Et le grand inquisiteur lui dit, ben voilà, le diable t'a parlé au désert, jadis, il t'a proposé trois tentations et tu les as refusées. Tu les as refusées, t'as refusé de transformer les pierres en pain, t'as refusé de te jeter du haut du temple et t'as refusé d'avoir le glaive et tous les royaumes de la terre. Et ce faisant, t'as refusé finalement ce dont les hommes avaient besoin. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas capable de la liberté, il n'est pas à la hauteur du projet de Dieu. Ce que cherchent les hommes, ils sont pas dignes finalement du projet de Dieu. Ce que cherchent les hommes, c'est le pain, le pouvoir absolu sur eux, le mimétisme, etc. Et donc, déjà, dans cette légende du grand inquisiteur tout à fait importante, il y a un doute sur la possibilité même de l'homme d'atteindre le projet de Dieu. L'homme n'est pas capable de Dieu. Et le grand inquisiteur poursuivait, ben voilà, dans l'humanité, en fait, il y a deux espèces. Il y a la plupart, la majorité, les sous-hommes, finalement, qui, eux, ont besoin de pain et de jeu. Et puis, seule une toute petite minorité de surhommes, nous, les inquisiteurs, nous prenons sur nous le fardeau de la liberté et le fardeau de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme est incapable de connaître le bien et le mal. Et donc, tout ce passage magnifique médité, d'ailleurs, Dostoïevski était très anxieux, parce que lui, évidemment, il était du côté du Christ, mais il savait pas comment il arriverait à faire la réponse, hein, à une réponse à la hauteur, justement, du défi de l'inquisiteur. Et l'inquisiteur, du coup, allait plus loin. Il disait, mais finalement, les vrais amis des hommes, c'est nous, les inquisiteurs. Nous qui les maintenons dans l'aliénation. Mais au moins, on leur en demande pas quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. On tient compte de leur faiblesse, de leur maladie, de leur côté minable. Tandis que toi, au contraire, tu as augmenté finalement leur douleur en leur demandant plus. Toi, Christ, hein, en leur demandant plus que l'homme n'est capable, tu augmentes leur douleur. Alors, voilà donc déjà un premier doute qui vous montre bien que déjà en 1880, l'humanisme dans son côté prométhéen, a du plomb dans l'aile. Alors, au même moment, vous avez le Zarathoustra de Nietzsche. Ça commence notamment par un prologue où Zarathoustra vient donc dans un village annoncer le surhomme. Ce qui l'intéresse, c'est annoncer le surhomme. Mais avant d'annoncer le surhomme, dans un côté dialectique, il va dire, c'est soit le surhomme, soit ce qu'il appelle le dernier homme. Alors c'est quoi le dernier homme? Vous allez voir que c'est aussi un texte assez prophétique. Voyez, je vous montre le dernier homme. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce qu'une étoile? Voilà ce que demande le dernier homme et il cligne de l'œil. La terre alors sera devenue petite et le dernier homme y sautillera, qui rend toute chose petite. Son espèce est indestructible, comme le puceron des bois. Le dernier homme, c'est celui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers humains, et ils clignent des yeux. Ils ont quitté les contrées où il est dur de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin, on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Devenir malade et éprouver de la méfiance leur paraît relever du péché. On marche avec précaution. Fou donc celui qui trébuche encore sur des pierres ou sur des humains. Un peu de poison par-ci par-là, ça donne des rêves agréables. Quand je suis à la fac, je dis un peu de cannabis par-ci par-là, ça donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison, pour finir, ça donne une mort agréable. On travaille encore, car le travail est un divertissement, mais on prend soin que le divertissement ne soit pas trop fatigant. On ne devient plus ni riche ni pauvre, car l'un et l'autre sont trop pénibles. Qui veut encore gouverner et qui veut encore obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Point de berger et un seul troupeau. Chacun veut la même chose. Chacun est pareil. Celui qui sent les choses autrement ira volontairement à l'asile d'aliénés. Jadis, tout le monde était fou, disent les plus malins, et ils clignent des yeux. on est malin et l'on sait tout ce qui s'est passé. Alors on n'en finit pas de rigoler. On se querelle encore, mais on se réconciliera bientôt, sinon ça abîme l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais l'on adore la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent des yeux. Et sur ces mots s'acheva le premier discours de Zarathoustra, discours que l'on appelle aussi le prologue. Car à cet endroit, les cris et la joie de la foule interrompirent Zarathoustra. « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathoustra !» s'écrièrent-ils. « Fais-nous devenir ce dernier homme, et nous te faisons grâce du surhomme. » Et toute la foule jubilait et claquait de la langue. Donc là, vous avez un échec apostolique, si vous voulez, de Zarathoustra, qui vient donc présenter le dernier homme de manière tout à fait méprisante, et pour annoncer ensuite le surhomme, mais le désir de ses écouteurs, de ses interlocuteurs, c'est le dernier homme, c'est pas le surhomme, trop fatigant, hein, c'est le dernier homme. Et donc, comme vous voyez, ces deux textes contemporains, de Nietzsche et Dostoïevski, bon, qui après, dans deux systèmes de pensée, qui un peu s'opposent, mais font un même diagnostic, hein, comme quoi l'homme n'est pas à la hauteur ni du surhomme pour Zarathoustra, ni du projet de Dieu pour le grand inquisiteur. Et on pourrait continuer après ces auteurs-là. Un texte célèbre de Freud en 1917 a pu décrire l'Aufklärung, c'est-à-dire les Lumières, l'Aufklärung c'est le nom allemand des Lumières, la modernité, sous l'angle d'un processus vexatoire. C'est-à-dire que, vous savez que Freud voulait faire passer la nouveauté de la psychanalyse, donc il a inventé un petit peu un mythe pour bien présenter ce qu'il prétendait apporter, et il disait, ben voilà, je suis la troisième des vexations. Il y a d'abord eu la vexation cosmologique, hein, c'est-à-dire que l'homme qui se pensait au centre de l'univers, bon, eh ben avec Galilée et Copernic, ça y est, il est expulsé du centre, hein, et ce n'est plus que un atome sur une étoile elle-même perdue dans un univers en expansion, etc. Donc la vexation cosmologique apportée par la Galilée ou par Copernic d'abord, puis par Galilée. Et puis deuxième vexation, Darwin, l'homme qui se pensait distinct du règne animal. Eh ben, le voilà finalement soumis à la même évolution biologique que le règne animal, et la discontinuité que l'homme pensait avoir avec ce monde naturel et animal est abattue. Et puis troisième vexation, donc Freud, hein, l'homme qui se pensait maître chez lui, voilà que Freud venait lui révéler que c'est sa libido inconsciente qui le gouverne, ses émotions, ses pulsions inconscientes qui le gouvernent. Et donc, en 1917, ce texte-là donc montrait bien que, bon, qu'est-ce qui restait de l'humanisme dans tout ça, hein, qu'est-ce qui restait de l'orgueil prométhéen qu'avait pu avoir l'humanisme au moment de la Renaissance. En réalité, toute une série de vexations, hein, dont les Lumières comme processus vexatoire, l'homme étant expulsé de son narcissisme, on pourrait dire, hein, du narcissisme de l'espèce, qui aurait voulu, avant Galilée, qu'elle soit au centre, qui aurait voulu qu'elle soit distincte du règne biologique et animal, ou qui aurait voulu qu'on soit maître, tout à fait maître de chez nous et de nous-mêmes, et tout à fait transparent à nous-mêmes. Et donc, l'Aufklärung se révèle ici un jeu cruel, hein, voire un jeu un peu méchant. Il y a un philosophe allemand, Peter Sloterdijk, qui est intéressant parce qu'il a un fond de moral, il n'est pas du tout chrétien, mais il a un fond de moraliste tout à fait intéressant, il écrit extrêmement bien. Et alors, ceci dit, après c'est un peu un sophiste, mais il en a fait tout un commentaire justement de ce texte de Freud. Et en expliquant qu'est-ce qui se passe dans ces opérations modernes, l'une des prestations primaires de la vitalité de l'organisme chez l'être humain est d'être capable d'avoir une préférence spontanée et énergique pour son propre mode de vie, pour ses propres valeurs, pour ses convictions, pour les histoires qui lui permettent d'interpréter le monde. Du point de vue systémique, les narcissismes puissants sont le signe d'une intégration affective et cognitive, la connaissance réussie de l'être humain en lui-même, dans son collectif moral et dans sa culture. Et donc nous avons tous un bouclier narcissique. Lorsque le bouclier narcissique est intact, l'individu vit dans la conviction que le fait d'être lui-même est un avantage insurmontable, et il peut en permanence célébrer son analogie avec lui-même. La forme habituelle de cette célébration est la fierté. Lorsqu'on éprouve de la fierté envers soi-même et son groupe, on produit de manière endogène une sorte de vitamine qui protège son organisme contre les informations destructives ou envahissantes. À de telles informations envahissantes qui percent notre bouclier narcissique d'un organisme psychique, on va donner le nom, dans la langue courante, de vexation. Lorsque sa fierté est blessée, l'individu fait l'expérience du fait qu'une information d'abord impossible à repousser a pénétré en lui et qu'elle lui cause le sentiment d'avoir perdu son intégrité. Du côté de l'agresseur,
dont l'offclaireur, l'agresseur, hein, que ce soit Copernic, que ce soit Darwin ou que ce soit Freud, le narcissisme de l'instructeur trouve largement son compte dans la transmission de messages déconstructifs. Mais le rôle est bien plus difficile à tenir pour celui qui doit recevoir la vexation. S'il se ferme aux éléments nouveaux qu'il a à connaître, il perd le lien avec le niveau actuel de la pensée et de l'art. Et s'il s'ouvre aux nouvelles évidences, il lui faut accepter des effractions dans son système immunitaire cognitif. Alors, c'est une description assez drôle, je trouve, mais qui décrit bien en effet l'opération, à savoir que l'homme, tel qu'il avait pu s'imaginer, et donc par la pensée moderne, eh ben, a subi toute cette série-là de vexations. Et donc, Sauterjic continuait en disant, malgré tout, il y a un reste. C'est-à-dire que, au fond de la vexation, ben justement, qu'est-ce que c'est qui va prouver finalement l'homme à lui-même? Ben ça va être ce que Sauterjic appelait le cogito traumatologique. Hein. Pour les attaquer, c'est en dernier lieu la démonstration de leur âme qui s'impose à partir de leur vexation. Et âme, ce qui est autorisé à dire, je suis vexé, donc je suis. On peut donner à cette évidence le nom de cogito traumatologique. Et donc, un exemple de ce premier cogito traumatologique, c'est Pascal, justement, hein, qui vient après la première des vexations, Copernic. Et donc, Pascal, tout le tragique chrétien de Pascal, c'est justement l'homme dans ses espaces infinis. Ben, voilà un exemple, si vous voulez, de cogito traumatologique dans la pensée de Pascal. Et donc, oui, on était loin, à l'époque du Concile, hein, aussi bien par l'expérience humaine du XXe siècle que dans la pensée même, de l'humanisme tel qu'on avait pu le rêver au XVIe siècle, anthroposotrique tel qu'on avait pu le rêver au XVIe siècle. Et donc, c'est une image de l'homme abîmé. Alors, ça ne veut pas dire que tous ces penseurs-là ont eu tort. C'est-à-dire qu'il y a en effet un inconscient. Il y a en effet Copernic ou Darwin, après s'est porté dans des systèmes de pensée défectueux. Mais malgré tout, leur intuition, leur découverte est bien juste. Et donc, c'est des choses quand on est vexé, c'est qu'on peut pas repousser l'information nouvelle. Hein. On est bien obligé d'accepter l'intuition de Copernic ou de Galilée, l'intuition de Darwin ou l'intuition de Freud. Hein, et on est bien obligé de recevoir ça. Et sinon, bon, ben, on peut se fermer, évidemment, et vivre dans l'illusion sur soi-même, mais une fois que la vexation est reçue, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui fait qu'au moment du Concile, on est même sur le point où l'humanisme lui-même, et sur le point, l'humanisme anthropocentrique lui-même, est sur le point de proclamer sa propre mort. Et c'est ce qui va arriver en 1966, hein, les années 60, vous savez, il y a tout un côté humaniste au début des années 60, mais il y a aussi ensuite toute une pensée anti-humaniste qui se met en place avec le structuralisme, par exemple, c'est-à-dire ce qui compte, c'est plus l'homme, c'est les structures. Et en 1966, vous avez un texte très célèbre de la philosophie française qui est Michel Foucault, Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines. Et qu'est-ce que c'était la conclusion des mots et les choses? L'homme. Une chose est en tout cas est certaine, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit jamais posé au savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique restreint, la culture européenne depuis le XVIe siècle, on peut dire que l'homme est une invention récente. Ce n'est pas autour de lui et de ses secrets que longtemps, obscurément, le savoir a rôdé. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et peut-être la fin prochaine. Et les années 60 proclament donc la fin de l'humanisme. Le même mois, ça c'est en avril, le livre paraît en avril 66. Alors c'est intéressant, le même mois d'avril 66, il y a une couverture très célèbre du Time qui annonce la mort de Dieu. He's got dead. Et donc la mort de l'homme et la mort de Dieu, donc vous voyez, on est trois mois après le discours de Paul VI. Hein, la mort de l'homme et la mort de Dieu sont proclamés en même temps, on pourrait dire, par la pensée moderne, au mois d'avril, d'avril 1966, par le Time ou par Michel Foucault. Et on pourrait dire que depuis, qu'est-ce qu'il en est? Bon, bien sûr, depuis on a conquis la Lune encore, bon, l'homme a fait encore pas mal de prouesses, mais depuis, malgré tout, qu'est-ce qui reste de l'humanisme athée, on pourrait dire, hein, le fameux drame de l'humanisme athée. Si je reviens à Sloterdijk, comment est-ce qu'il revisite aujourd'hui le mythe du dernier homme, hein? Alors, qu'est-ce que c'est le dernier homme aujourd'hui, 100 ans après Nietzsche? Et donc, Sloterdijk, quand on continuait, le dernier homme aujourd'hui, c'est le consommateur mystique, l'utilisateur intégral du monde, c'est-à-dire un individu qui ne se reproduit pas, mais qui jouit de lui-même comme d'un état final de l'évolution. Ce type humain peuple aujourd'hui les grandes villes du monde moderne. On voit apparaître ainsi une sorte de devotio postmoderna, une dévotion postmoderne, je veux dire de recueillement de l'individu face à lui-même. Il s'agit d'égoïstes généreux qui éprouvent un ravissement religieux à l'idée de leur propre existence,
Ils se prennent pour des juniors partenaires de Dieu et sont tous secrètement persuadés que c'est d'eux que parlait en réalité l'ange de la crèche. Toutes sortes de vocations apparaissent ainsi dans une population laïque, des vocations à une vie de panthéiste isolée, des vocations à mener une existence quasi monacale, extatique, jouissant d'elle-même, dans laquelle l'individu, consommateur final de sa chance existentielle, flâne sur les boulevards, traîne dans son appartement avec de l'eau minérale et de l'ecstasy, et laisse ses yeux tournicoter dans un carnaval permanent des images. Le contemporain typique, c'est le dernier homme volontaire qui parodie le monachisme. Ce que l'on avait à apprendre dans le fait de se retrouver seul avec Dieu, on le transpose aujourd'hui à l'existence dans les grandes villes, une vie en solitaire avec un néant meublé. Le processus mondial dans son ensemble a beaucoup plus de traits communs avec une partie de suicidaires à grande échelle qu'avec une organisation d'êtres rationnels visant à la conservation de soi. Alors bon, c'est un poète un peu, hein, ce n'est évidemment qu'un élément de la description des temps actuels, mais c'est malgré tout un élément à examiner et qui a une certaine pertinence, hein, dans un certain nombre de choses. Voilà donc pour comment resituer, vous voyez, comment au moment où l'Église se saisit de l'humanisme, bon, ben, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui reste de l'humanisme anthropocentrique? Qu'est-ce qui reste de l'humanisme athée? Vous avez dû au moins connaître le titre du bouquin de Delubac, le drame de l'humanisme athée. Bon, l'humanisme athée, en effet, est un drame, hein, proclamé par lui-même. C'est pas l'Église qui le proclame, hein, c'est l'humanisme athée qui, de lui-même, proclame son propre drame, ben, par Freud, par exemple. Ça, c'était mon premier point. Situer donc la parole de Paul VI dans ce contexte-là, dans lequel nous sommes encore. Alors, deuxièmement, comment est-ce que Paul VI a pu arriver à ce thème-là? Et donc, comment derrière Paul VI, le Concile aussi? Alors, un des grands aspirateurs ici de Paul VI, et vous savez que c'est en même temps, ce jour-là d'ailleurs, c'est à lui qu'il remet le message du Concile aux intellectuels, ça a donc été Jacques Maritain, c'est-à-dire un de ceux qui ont porté le plus toutes ces problématiques-là de l'homme et de l'humanisme, et notamment autour de son très célèbre livre de 1936, Humanisme intégral, ça a donc été Jacques Maritain. Et donc, derrière le discours de Paul VI, vous avez ici toute l'œuvre de Maritain. Donc Maritain, il est né en 1882, il est mort en 73. Je ne vais pas vous raconter sa vie, on y serait encore dans trois jours. Mais vous signalez quelques-uns des livres, justement, qui ont jalonné sa réflexion sur l'humanisme et sur l'homme. Il faudrait commencer par un livre critique, hein, que justement, il a commencé par critiquer la pensée de l'homme moderne. Et donc, Trois réformateurs, en 1925, et qui est un livre tout à fait décapant. Il s'intéressait à Luther, il s'intéressait ensuite à Descartes, et il s'intéressait ensuite à Rousseau. Voilà les trois réformateurs. Et il les accusait, chacun des trois, d'avoir fait de leur mal personnel la règle de l'espèce. C'est-à-dire que les trois études qu'il propose sont des études approfondies de la psychologie, de l'expérience spirituelle de Luther, de Descartes et de Rousseau. Et dans cette expérience spirituelle et dans les on pourrait dire les côtés un peu défectueux de cette expérience spirituelle, ben ils avaient fait de leur mal personnel la règle de l'espèce, c'est-à-dire qu'ils avaient ensuite lancé justement l'humanisme dans des fausses voies. En prenant, vous savez que pareil qu'il y a un mètre étalon, hein, c'est-à-dire comment on calcule le mètre, ben on a un mètre de référence. Bon, ben on peut se poser quelle est la question, quel doit être l'homme étalon? À partir de quoi réfléchir sur l'homme? Quel doit être l'homme étalon? Et donc c'est sûr que si vous prenez comme étalon la maladie d'un tel ou d'un tel, ben vous abîmez l'anthropologie, hein, vous abîmez l'humanisme en prenant comme référence, hein, non pas l'homme tel qu'il devrait être ou tel qu'il pourrait être, mais l'homme malade, alors l'homme tel qu'il est malade chez Luther, l'homme tel qu'il est malade chez Descartes, l'homme qu'il est malade chez Rousseau ou l'homme tel qu'il est malade chez Bernard ou chez moi. Hein, nous sommes tous d'une certaine manière malades aussi, c'est pas simplement les grands penseurs que... Bon. Et donc, Trois réformateurs, c'est ça. Hein, il a critiqué, finalement, qu'est-ce qu'on a pris au moment où on a construit l'humanisme, qu'est-ce qu'on a pris comme homme étalon. Bien. Le deuxième livre sur cette question-là, c'est donc Humanisme intégral en 1936, donc une espèce de somme tout à fait importante dans la controverse idéologique de cette époque-là, de l'entre-deux-guerres, face au fascisme, face au communisme, etc. Et derrière le fascisme, derrière le communisme ou derrière le nazisme, il y a autant de conceptions de l'homme. Et donc c'est sur ce terrain-là de la culture, c'est sur ce terrain-là de l'anthropologie que les chrétiens ont dû se battre, on pourrait dire, hein, et faire valoir leur conception de l'homme contre le darwinisme social, par exemple, ou contre la conception fasciste de l'homme, contre la conception communiste de l'homme. Un troisième livre, 1947, alors qui est un livre de sa femme, mais qui est un tout petit livre et qui est absolument fondamental, Histoire d'Abraham,
qui, à partir d'une méditation sur Abraham et sur l'expérience spirituelle aussi d'Abraham, montre que notre conscience morale, elle n'est pas donnée toute faite. Elle a aussi une histoire, hein, et que la conscience morale de l'homme passe à travers une histoire. La quatrième livre, c'est un peu, là je vous signale simplement les œuvres que vous lirez chez vous en rentrant, hein, et après on va voir un peu plus dans comment ça marche, mais le quatrième livre, c'est donc un peu sa somme qu'il a publiée sur toutes ces réflexions-là, donc La philosophie morale, qui a été réédité récemment, qui est un livre de 1960, qui était paru dans la même collection que Sartre, etc., chez Gallimard, La philosophie morale, et qui est un très beau livre justement pour réfléchir. Alors c'est une histoire de la conscience morale qu'il n'a pas pu mener jusqu'au bout, parce qu'il était déjà très vieux, mais qu'il a mené au moins à partir de l'Ancien Testament, à partir également de la pensée grecque, et puis jusqu'au Nouveau Testament. Et enfin, le dernier livre que je veux signaler ici, c'est un petit livre de 1967, mais qui est aussi tout à fait important, De la grâce et de l'humanité de Jésus. Et pourquoi c'est un livre tout à fait important qui clôt cette série de réflexions sur l'homme? Parce que justement, voilà le livre où se rencontrent l'anthropologie et la christologie. Et comment, pour construire une anthropologie, on a besoin d'une christologie et vice-versa. Donc voilà cinq livres qui jalonnent la réflexion que Maritain a pu avoir sur l'homme et sur l'humanisme. Trois réformateurs, humanisme intégral, histoire d'Abraham, la philosophie morale, de la grâce et de l'humanité de Jésus. Et donc voilà une série. Alors si vous n'avez pas le temps de lire tout ça, je vous signale aussi Maritain en toute liberté des pages choisies. C'est un magnifique recueil de ses plus belles pages, alors sur ces domaines-là, mais aussi sur bien d'autres domaines. Alors qu'est-ce qu'il dit justement dans la philosophie morale? Il va déterminer deux tentations pour la pensée chrétienne et deux tentations qu'il avait lui-même vécues, en particulier une. Il y a une tentation de refuser la condition humaine. Et puis l'autre tentation, c'est de l'accepter purement et simplement, au contraire, la condition humaine. Et donc on est toujours face à ces deux tentations-là, soit refuser la condition humaine, soit accepter purement et simplement la condition humaine. Refuser la condition humaine, c'est par exemple refuser nos blessures. Faire comme si, en effet, la condition humaine n'était pas blessée, et que comme si Darwin ou comme si Freud ne nous avait rien appris. Et Maritain va être celui qui, justement, va accueillir dans la pensée chrétienne, non pas toute la pensée de Darwin ou toute la pensée de Freud, mais l'intuition. Toute sa vie, il a parlé des vérités captives. Les vérités sont captives dans des systèmes, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens géniaux qui ont trouvé des vraies intuitions et des vraies vérités, mais qui les ont souvent abîmées dans un système de pensée générale, athée ou pas forcément athée, mais en tout cas défectueux. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut tous les rejeter, mais il faut aller chercher l'intuition, la vérité captive, pour la réintégrer dans un autre système qui, lui, sera mieux fondé. Et donc, refuser la condition humaine, c'est évidemment ne pas tenir compte de ses blessures, que l'homme a, du fait que l'inconscient joue un rôle essentiel en chacun de nous, du fait qu'il y a beaucoup d'instincts animaux, d'animalité dans l'homme, etc. On peut se demander parfois, d'ailleurs, si la pastorale, on est très dans l'actualité, on sort d'un synode, mais si la pastorale ne succombe pas parfois à cette tentation de faire finalement une pastorale pour les forts et les purs en refusant la condition humaine qui est que nous sommes d'abord des pécheurs et que Dieu vient d'abord non pas pour les forts et les purs, mais pour des pécheurs. Et puis, il y a également la tentation contraire, donc d'accepter purement et simplement la condition humaine. Alors c'était le cas dans les années 60, au moment du Concile Vatican II, il y a eu l'interprétation de Paul VI, mais ça n'a pas été la seule interprétation, et il y a eu aussi l'anti-humanisme dont je vous parlais avec Michel Foucault, etc., mais il y avait aussi à côté tout un humanisme un peu, c'était l'époque du théiardisme posthume, alors c'était pas le vrai théiard, mais disons c'était ce qu'on lui faisait dire, et donc il y avait l'idée que finalement toute l'histoire humaine était de l'histoire sacrée, finalement, et que par nos propres forces immanentes et nos propres énergies immanentes, tout ça allait déboucher tout tranquillement vers le paradis terrestre avant de devenir un paradis. Par exemple, j'avais trouvé une bande dessinée dans Match, un numéro de Paris Match en 1972, qui s'appelait Le catéchisme tel qu'on l'enseignera en l'an 5000. Alors, je vous l'explique. Alors, au début, je vous lis, je ne vous ai pas amené les vignettes, c'était rigolo aussi, mais je vous lis le commentaire qu'il y avait dessous. Au début était Dieu, et il créa la matière inorganisée, les atomes. Dieu ordonna qu'elle s'organise, et Dieu, le grand ordinateur, vit qu'il était temps de faire émerger les terres. Les poissons apprirent alors à marcher sur leurs nageoires, et leur marche ne s'arrêta plus jusqu'à ce qu'ils deviennent des singes. Le singe devint homme, et y connut la joie et la douleur. De plus en plus de matière, alors, se changea en pensée, selon la volonté de Dieu. Les hommes se civilisèrent, mais ils préféraient souvent la matière à la pensée, détruisant eux-mêmes l'œuvre de Dieu. Dieu décida de faire naître Jésus par parthénogenèse dans le sein de Marie, toujours vierge. Jésus prêche les foules, sème le grain qui changera la matière en pensée, porteur du message d'amour qui montre au monde le chemin de l'harmonie. Mais, prisonniers du mal, les hommes crucifient Jésus. Il continue pendant des siècles à retarder la transformation de la matière en pensée. Cependant, le bon grain germe aussi, l'ONU est le premier gouvernement du monde. Et la force organisatrice voulue par Dieu depuis le commencement continuait son œuvre. Les hommes quittèrent la terre pour aller s'installer partout dans l'espace. Là, devenus plus pensée que matière, ils n'obéissaient plus à leur sexe, plus d'amour animal. Les enfants nés par parthénogenèse ont 1 000 000 000 de pères et de mères. Les hommes ayant tout découvert de la marche du monde font tout sans peine et sans travail. La matière étant entièrement transformée en pensée, ils approchent du point où ils rencontrent Dieu. Alors Jésus réapparaît au sommet de l'amour et de la connaissance. Bon, on voyait que c'était un curieux mix d'abord de platonisme, hein, tout ce qui était le mauvais c'est la matière et puis le bien bon c'est la pensée. Bon, et en même temps d'évolutionnisme, ça reprenait tel quel. Bon, il y avait un côté peut-être caricatural ou ironique hein, dans ce catéchisme tel qu'on l'enseignait en l'an 5000, mais ça vous montre bien une partie l'esprit aussi des années 60 qui a été de rabattre tous les sens humains de l'histoire. L'histoire est pleine de sens humain. N'importe quel groupe d'hommes peut apporter un sens à l'histoire. Les marxistes, pendant longtemps, ont apporté un sens à l'histoire. Toutes les longues marches humaines ont apporté un sens à l'histoire. Et donc, la tentation était grande dans les années 60 que toutes ces longues marches humaines, que tous ces sens humains de l'histoire, y compris donc l'histoire évolutive de l'espèce, soient transformés telle quelle et immédiatement en histoire sainte, en histoire sacrée, en histoire du salut. Et donc voilà la deuxième tentation, hein, accepter telle quelle la condition humaine et ne pas voir que dans... Enfin non, là c'est plutôt la tentation de transformer notre histoire humaine telle quelle en histoire du salut en se contentant de nos histoires humaines. Hein, sans voir que l'histoire du salut a un rapport, un peu pareil que le rapport du royaume au monde, l'histoire du salut a un rapport de transversalité, hein, à la fois d'immanence et de transcendance, mais elle ne se superpose pas comme ça à l'histoire humaine. Autre tentation également d'accepter telle quelle la condition humaine, ben, y a eu aussi tout un pessimisme de la pensée parfois qui dit, ben voilà, par exemple dans les années 30, il y a un grand débat, comme quoi il est normal finalement que le travail soit pénible, il est normal que la femme accouche dans la douleur, puisque finalement c'est la condition humaine. Donc ne luttons pas pour faire reculer la mort, ne luttons pas pour faire reculer la souffrance, puisque c'est la condition humaine. Non, ne l'acceptons pas trop vite, c'est ce que voulait expliquer Maritain. Hein. La condition humaine, on ne peut pas l'accepter telle qu'elle, mais on ne peut pas la refuser non plus. Et donc il ne s'agit pas de l'accepter trop vite. Alors qui prendre donc comme homme étalon? Hein, si on n'allait pas prendre la maladie des uns ou des autres comme étalon, mais c'est évidemment le Christ que Maritain propose de prendre comme homme étalon. Et dans Maritain a été très impressionné parce qu'en 1925, Pie XI a créé une nouvelle fête liturgique, hein, qui est inscrite dans le calendrier, qui est la fête du Christ roi. Ça signifie quoi que le Christ est roi? Bon, ça a des implications politiques parfois, vous avez peut-être vu le film sur les Cristeros mexicains, etc. Mais c'est d'abord que le Christ est roi de toutes choses, c'est d'abord que c'est à lui qu'il faut demander la clé anthropologique, hein, avant d'être pleinement Dieu. Il est d'abord pleinement homme. Et donc, au cœur de Humanisme intégral, de son livre de 1936, c'est donc le Christ qui est la clé anthropologique, c'est le Christ qui est l'homme étalon. L'image d'un homme y répond, dit Maritain. Un roi, alors le Christ qu'on contemple comment? Un roi sanglant, vêtu d'écarlate et couronné d'épines. Voici l'homme, hein, ecce homo. Hein, c'est au moment où le Christ est en roi, mais en roi outragé, que la Bible nous donne ces deux mots, ecce homo. Il a pris sur lui nos langueurs. C'est à lui que la grâce configure les hommes, et en les faisant participants de la nature divine et fils adoptifs de Dieu, destinés à devenir, au terme de leur croissance spirituelle, des dieux par participation, quand la charité aura achevé de liquéfier leur cœur. Et c'est en étant conformés à ce chef rédempteur qu'ils entrent à leur tour dans le mystère de son action rédemptrice, achevant tout le long du temps ce qui manque à ses douleurs. Alors je le répète parce que c'est une magnifique citation, mais un peu compliquée. Hein. Et donc, bien en profiter, pareil que Catherine de Sienne tout à l'heure, ça dit la même chose. C'est-à-dire qu'au cœur de notre humanisme chrétien, de notre anthropologie chrétienne, il y a une image d'un homme, hein, un roi sanglant, vêtu d'écarlate, couronné d'épines, ecce homo. Il a pris sur lui nos langueurs. C'est à lui que la grâce nous configure en nous faisant participer de la nature divine et devenir fils adoptifs de Dieu, destinés à devenir, au terme de notre croissance spirituelle, des dieux par participation, quand la charité aura achevé de liquéfier notre cœur. Et c'est en étant conformés à ce chef rédempteur que nous entrons à notre tour dans le mystère de son action rédemptrice, achevant tout le long du temps ce qui manque à ses douleurs. Et donc voilà le secret du discours de Paul VI, hein, cet humanisme théocentrique, le voilà, un humanisme de l'ecce homo, c'est-à-dire que l'homme est bien roi, mais sa couronne est d'épines, hein, et l'homme est bien blessé, mais c'est une blessure aussi divine. Hein. Donc, pensez à la fois à la royauté de l'homme, hein, mais une royauté, donc, à l'image de la royauté du Christ, un peu dérisoire, un peu sous la souffrance et dans la douleur, et pensez également à toutes les blessures de l'homme, mais en sachant qu'il s'agit de blessures divines. Alors voilà le cœur de l'humanisme intégral, et qui, alors, Maritain était au centre de tout un mouvement d'intellectuels, d'artistes, donc vous trouverez également ça dans ce qu'on appelait la littérature du péché de la grâce de l'entre-deux-guerres, notamment chez Bernanos, qui a des intuitions très semblables. Et donc c'est sur le Christ, hein, et Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, qu'il s'agit de mesurer, on pourrait dire, tout humanisme, de mesurer toute anthropologie, et de construire notre propre humanisme et notre propre anthropologie. Et c'est ce qu'il va donc faire Maritain dans ses derniers livres, en 1967, après le Concile, de la grâce et de l'humanité de Jésus, alors qui est une réflexion sur, justement, comment en Jésus se rencontrent l'humanité et la divinité. Hein. Et alors, je ne peux pas vous résumer, c'était un texte technique, parce que notamment se posait toute la question de la conscience du Christ, de sa divinité, mais Maritain se servait donc de l'anthropologie pour penser la christologie, et de la christologie pour penser l'anthropologie. Et ça a des implications dans toute une série de domaines. Hein, par exemple, lorsqu'on se demande comment est-ce que l'homme doit agir par rapport à l'État, comment est-ce que l'homme doit agir par rapport à la loi, comment est-ce que l'homme doit agir par rapport à la morale, comment est-ce que l'homme doit agir par rapport à la famille. La méditation de Jésus-Christ, pour nous, s'impose. Hein, c'est d'abord en ressaisissant tout ça dans Jésus-Christ que nous pouvons avoir les principes qui peuvent nous permettre d'accueillir les évolutions, puis d'en accepter bien sûr certaines, et d'en refuser d'autres. Et puis, encore plus profondément que ça, par exemple, en se posant la question de la science du Christ, Maritain avait notamment montré que, en corrigeant Freud, que l'homme n'a pas un inconscient, par exemple, mais deux inconscients. Deux inconscients. Et comment est-ce que le Christ sait qu'il est Dieu, sinon justement par son inconscient? Et donc, on n'a pas en nous qu'un inconscient libidinal, un inconscient d'instinct, un inconscient de pulsion. On a aussi, justement parce que l'homme est à l'image de Dieu, si vous voulez, on a un inconscient qui nous vient de notre biologie, celui qu'a découvert Freud, mais on a aussi un inconscient qui nous vient du fait qu'on est à l'image de Dieu. Et donc cette théorie du double inconscient lui permettait d'expliquer la connaissance du Christ, et en même temps lui permettait aussi d'expliquer pourquoi nous viennent des intuitions, pourquoi nous viennent des appels, pourquoi nous viennent des vocations. Tout ça, c'est pas la libido, hein, et pourtant ça nous surgit de l'inconscient. Et donc je crois que là, il y a une intuition très forte pour corriger justement Freud dans la connaissance de l'homme, hein, que de tenir compte de ce double inconscient. Nous n'avons pas en nous que l'inconscient animal de l'instinct, des désirs, des images, des tendances refoulées ou des souvenirs traumatiques, nous avons aussi ce que Marie appelait le préconscient de l'esprit, hein, c'est-à-dire quelque chose qui nous vient de Dieu en nous, et qui agit inconsciemment en nous, et voilà. Donc, alors je vois que le temps, l'heure se rapproche, donc je vais simplement donner deux citations un peu pour conclure. Dans les années 70, tout ça a été, l'homme a été encore plus passé à la moulinette, on pourrait dire, par les sciences humaines. Hein, il y a eu un moment de sciences humaines, et donc il fallait plus de philosophie, il fallait plus de théologie. Les sciences humaines, dont je suis pas contre les sciences humaines, puisque c'est mon métier, mon gagne-pain, mais les sciences humaines étaient supposées tout remplacer et détruire, donc les philosophies, les théologies. Et Il y a eu un renversement à la fin des années 70, parce que les sciences humaines avaient été donc plutôt, jusqu'alors, participées du côté déconstructeur de l'homme, hein, des messages déconstructifs. Et il y a eu un renversement mais dans toute une série de pensées. Alors, deux exemples, par exemple, la psychanalyse a été d'une certaine manière dépassée. Ben, notamment, il y a eu François Zolto qui a fait ses fameux bouquins, L'Évangile au risque de la psychanalyse, etc., en montrant que la psychanalyse, dans une science humaine, pouvait également nous en apporter beaucoup. Bon. Et deuxième exemple, René Girard. Hein, René Girard qui a montré, donc à partir de ce bouquin, 1978, etc., une sorte de renversement, hein, et comme quoi les sciences humaines, au lieu de déconstruire, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que c'était le christianisme et la Bible qui étaient comme une sorte de science humaine. Je vous lis une citation justement de René Girard qui explique ce renversement. Au IIIe siècle, les pamphlétaires antichrétiens ont affirmé que le christianisme disait la même chose que tous les mythes classiques. Le meurtre sacrificiel, sa répétition rituelle. Les premiers anthropologues de la religion au XIXe siècle, des modernes donc, ont insisté sur cette continuité. Le christianisme était donc un mythe comme les autres puisqu'il leur ressemblait tant. C'était la condition pour fonder une science unifiée des religions et pour s'extraire du discours de la théologie. Et de ce point de vue, ils ont eu raison. Il y a un plan sur lequel toutes les religions se rejoignent, qui est de donner une issue à la violence et au désir mimétique chez l'homme. Bon là, ce n'est qu'un des aspects, celui qu'il a creusé, le mimétisme, la violence, le bouc émissaire, le sacrifice. Et donc, il disait, ben oui, c'est sûr, la Bible et les évangiles, ça dit la même chose que toutes les religions les plus païennes, les religions les plus archaïques, les religions les plus, celles qui ont disparu, mésopotamiennes, égyptiennes. Dans toutes les religions, ben, vous avez, ça parle de la même chose, de sacrifice, ça parle de la même chose, de rites, et donc dans la Bible c'est la même chose. Mais en même temps, et c'est là qu'il opère le renversement, mais si l'on se penche sur le contenu du message chrétien, et d'abord juif, alors on voit qu'il ne croit tout simplement pas à la vérité du mécanisme sacrificiel. Et donc on ne peut pas considérer que la révélation chrétienne est un récit mythique parmi d'autres. Si le meurtre collectif est un gant, alors le christianisme c'est le gant retourné. Hein, donc ça parle bien de la même chose, mais ça retourne le gant. Nous voyons désormais le sacrifice de l'intérieur. Cela n'implique pas forcément une croyance à une révélation divine, mais cela montre une vérité humaine, et c'est cela qui intéresse les sciences de l'homme. Le message chrétien déconstruit le mécanisme sacrificiel, les sciences humaines aussi, et voilà leur point commun. Donc, nous ne ferons jamais de sciences humaines sérieuses si nous ne nous intéressons pas au christianisme, non pas comme croyance, mais comme révélation sur la nature humaine. Hein. Et donc, vous voyez le renversement qui s'opère ici dans l'œuvre de René Girard notamment. C'est-à-dire que, finalement, pour comprendre même l'homme, non seulement il y a un humanisme chrétien, mais même pour comprendre le plus profondément l'homme, c'est dans la révélation biblique qu'il faut aller le chercher. Hein. C'est dans la révélation biblique que René Girard va trouver, expliquer le mécanisme, et dévoiler, on pourrait dire. Son livre, d'ailleurs, s'appelait « Les choses cachées depuis la fondation du monde ». Ces choses cachées, elles sont dévoilées par la révélation biblique. Et donc, les sciences humaines, si vous voulez, lorsque les chrétiens développent une anthropologie, ou lorsqu'ils développent un humanisme, on ne se contente pas de poser un humanisme ou une anthropologie à côté de toutes les anthropologies qui existent, mais il faut être non seulement, ça c'est nécessaire pour notre identité, on pourrait dire, mais c'est aussi ce que nous dit Girard ici, c'est aussi dans la Bible que l'on peut trouver la clé, la véritable clé anthropologique, pour que l'homme puisse véritablement se comprendre lui-même. Alors, La citation sur laquelle j'aimerais conclure, parce que mon titre c'était l'humanisme chrétien ou l'anthropologie chrétienne est-elle susceptible d'évolution? À travers tout ça, il est évident qu'on n'a pas du tout fini de méditer ce que peut nous apporter la Bible, ce que peut nous apporter le récit de la Genèse, ou ce que peut nous apporter la contemplation du Christ. Et donc, humanisme intégral, en conclusion, avait ce passage-là. La faiblesse humaine cherche à dormir. Le chrétien ne sera jamais à la hauteur du christianisme et aura toujours tendance à se reposer trop tôt. Mais le christianisme est tout le contraire d'un tel sommeil et il tient en horreur le pessimisme d'inertie. Un humanisme réellement chrétien n'immobilise l'homme pour le bien comme pour le mal à aucun moment de son évolution. Il sait que non seulement dans son être social, mais dans son être intérieur et spirituel, l'homme n'est encore qu'une ébauche nocturne de lui-même, et qu'avant d'atteindre sa figure définitive, après le temps, il devra passer par bien des mues et des renouvellements. Car il y a une nature humaine, immuable comme telle, mais c'est précisément une nature en mouvement. C'est-à-dire l'élément immuable de notre nature, c'est qu'elle bouge, c'est qu'elle est en mouvement. La nature d'un être de chair, qui est fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire qui est étonnamment progressif dans le bien comme dans le mal. S'il est vrai que le mal et le malheur seront toujours aux prises avec l'homme, c'est sous des formes nouvelles, et en révélant de nouvelles profondeurs. car la mort elle-même change de visage avec le temps. Et le bien et la joie révéleront aussi, jusqu'à la fin, des profondeurs nouvelles. S'il est vrai que le cœur de l'homme souffrira toujours de l'angoisse de la béatitude, ce n'est pas parce que l'homme serait condamné à stagner toujours ici-bas dans une vie étroite et misérable. C'est parce que la vie la plus large et la plus abondante sera toujours quelque chose de petit comparé aux dimensions de son cœur. Merci.
Merci beaucoup, Michel. C'était passionnant, très riche. Alors peut-être y a-t-il dans l'assemblée, dans la salle, des questions, des désirs soit d'éclaircissement, soit des questions sur des points qui ont été simplement évoqués au passage.
Alors je vais essayer d'exprimer ma question. C'est dans cette conclusion que vous venez de faire, vous parlez donc que l'homme découvre toujours plus, etc. Est-ce que c'est dans une perspective de l'histoire jusqu'à la parousie, ou est-ce que c'est dans chaque homme? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, selon cet humanisme chrétien, l'homme se perfectionne au fil des siècles, ou est-ce que c'est une histoire propre?
Je pense que c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire, un des grands mythes modernes, justement, ça a été de concevoir l'histoire de l'humanité sur le modèle de la vie humaine. Hein, tous, là, les Lumières, c'est ça. Kant, il vous dit que l'homme devient adulte. Hein, avant, il était enfant. Donc, Saint Thomas d'Aquin, c'était un petit enfant. Et puis, arrive Kant, qui lui, l'homme adulte. Et donc, toute la pensée moderne a construit ce mythe comme quoi l'histoire de la pensée, c'était sur le modèle de la vie humaine. Alors, bon, c'est un mythe, mais ceci dit, ça dit quelque chose de vrai. C'est-à-dire que je pense que dans notre propre vie à nous, ben, on passe, évidemment, si la vie, notre propre vie a un sens, elle doit être marquée aussi par cette croissance continue de la sagesse, hein, et de la liberté aussi. Hein. Notre liberté n'est pas le point de départ. Notre liberté, on l'a en germe, mais la liberté, c'est le point final. C'est-à-dire, c'est ce qu'on conquiert toute sa vie. Bon. Et donc, c'est bien sûr dans notre propre horizon de liberté et de sagesse, mais c'est aussi, bien sûr, aussi pour l'histoire de l'humanité. Alors, ceci dit, en quoi cette vision-là se distinguait de ce que je vous ai dit du catéchisme de l'an 5000 de Paris Match, c'est que nous savons, nous chrétiens, ce qu'est l'homme, et nous savons que les processus historiques sont ambivalents. Et donc le texte de Maritain à la fin, il le disait aussi, hein, qu'est-ce que c'est qui va croître jusqu'au bout? Ça va être l'évolution, ça va être la beauté, ça va être le savoir, etc. Mais ça va être aussi le mal. Hein, tant que nous sommes, il y a une ambivalence de l'histoire humaine, c'est-à-dire le bien et le mal croissent ensemble. Hein, et donc ça, il ne faut pas l'oublier, et c'est là-dessus que ça se distinguait, disons, de l'humanisme un peu bêta des années 60. Voilà. Et donc, toutes les réquisitions que nous avons pensées à aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des conférences sur le transhumanisme, etc. Bon, la réponse, à mon avis, vis-à-vis de toutes ces choses-là, ça ne sera pas tout est mauvais, ni évidemment tout est bon. Hein. On sait d'avance que ça va être ambivalent. C'est-à-dire que toutes les nouveautés, tout ce que l'homme peut faire, il le fera. Bon. Et donc, il a toujours fait comme ça, ainsi, dans son histoire. Donc, tout ce qu'on pourra faire, ben, on le fera. Mais la tâche chrétienne là-dedans, c'est d'arriver à dégager ce qui est sauvable de tout ça, on pourrait dire. Hein. Mais on peut pas arrêter, de toute manière, ce qui se fait. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut en tirer, justement, pour le bien, hein, en se rappelant l'ambivalence de tout ça.
Vous nous avez conduit avec une très grande sûreté dans ce parcours époustouflant. Vous-même, comme chercheur, en 2014, comment vous vivez la sûreté du dogme et votre propre recherche ouverte sur cette nature humaine dont la chose immuable est d'être en mouvement?
Comment je vis parfaitement bien dans la sûreté du dogme. Non, pour vous le dire quoi? C'est quoi le dogme? Le dogme, tout à l'heure je vous ai dit, le petit livre de l'histoire d'Abraham, de Raïssa Maritain. Qu'est-ce qu'elle dit, Raïssa Maritain? Elle dit que donc notre conscience a une histoire. Bon, et bien, pour moi, les dogmes, si vous voulez, bon, quand on écrit quelque chose, t'entends, il faut écrire pour marquer l'étape. Bon. Et donc, le dogme me paraît comme des étapes qui ont été franchies par l'intelligence de la révélation et qui sont importantes à comprendre, bien sûr. Bon, il ne s'agit pas de voir le dogme de manière extérieure et magique, mais pour moi, qu'on ait réussi à penser ça, d'abord c'est magnifique quand on met ça dans une histoire, hein, que la pensée chrétienne ait pu arriver à penser ça, à fixer ça comme dogme, etc. Et donc, la fonction dogmatique de l'Église est tout à fait est une fonction qui est notre ami chercheur. Elle fixe les acquis de la recherche, on pourrait dire.
Chaque génération, elle fixe les acquis de la recherche. Bien. Alors après, évidemment, il y a plein de manières de vivre le dogme. On peut s'y enfermer. Je pense que je me sens très bien, disons, dans l'orthodoxie de l'Église, et je pense que l'Église va devoir affirmer toujours plus son orthodoxie et son dogme. Par contre, à mon avis, elle a tort de faire l'époque moderne a fait un lien entre l'orthodoxie et l'orthopraxie. Et comme quoi, il faut à la fois être complètement orthodoxe et en même temps avoir des pratiques complètement dans la. Et ça, je pense que c'est oublier la faiblesse et l'ambivalence justement de l'homme. C'est-à-dire autant il est important d'avoir une conscience de plus en plus. J'ai un texte que je voulais vous lire puis que je ne vous ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps, mais que j'ai trouvé magnifique, justement sur cette question-là. C'est un texte, Maritain avait converti pas mal de poètes, et notamment Jean Cocteau, etc. Bon, mais Jean Cocteau, c'était pas un gibier d'enfant de cœur. Et donc Max Jacob, qui n'était pas non plus un enfant de cœur, lui écrit quoi, hein ? Alors, Cocteau vient donc juste de se convertir, bon, ils sont homosexuels tous les deux en 1925-26, donc aussi bien l'un que l'autre ont du mal à parachever leur conversion à cause de leurs mœurs. Et donc Max Jacob lui écrit quoi ? À Cocteau, pas de perfection en religion et en littérature. Le démon te touche, sois obstinément chrétien au travers de tes péchés, je t'en prie. Ne vois-tu pas le démon te montrer que la perfection est inaccessible ? À quoi bon le confessionnal si Dieu n'admet pas le péché ? Crois-tu que Dieu ne pardonne pas plus à ton immense charité qu'à bien des colères orgueilleuses ? Tu ne me confies rien au sujet de ton désespoir de la perfection, mais tu renonces à la vie chrétienne parce que tu veux être mieux que nous ne pouvons être. Tu ne veux pas accepter ta condition humaine, quoi. Ne songe pas à la perfection de la vie chrétienne qui te fait dire « cette perfection-là ne me plairait pas ». C'est une erreur effroyable, car cette perfection ne peut être aimée que lorsqu'on y arrive par degrés. Elle nous dégoûte avant. Donc, Jean, ne sois pas mieux que tout autre chrétien, sois ce que tu es. Simplement, désigne le mal par son nom, le mot « péché ». Dans ce mot-là est toute la distinction. Personne n'osera te dire cette vérité-là, c'est du cynisme. On nous demande de ne pas faire le mal comme une chose toute naturelle, mais d'avoir conscience que cela est le mal. On nous demande d'avoir le sens du mal. Tu me dis, ce changement de dénomination n'est que de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la crainte de Dieu. Confesse-toi souvent, très souvent, avec un sentiment de regret d'être si faible, parce que tu demandes trop, tu renonces à un peu. Sois ce peu et confesse-toi. Tu dis à Dieu, donne-moi le dégoût de ce que j'aime. À chaque dégoût correspondra un goût. Et tu arriveras avec joie à une perfection dont ni toi ni moi ne pouvons encore apprécier les charmes, de sorte qu'elle nous rebute. Et donc, je lis que ce passage-là, la lettre était encore beaucoup plus longue, mais ce que disait Max Jacob, moi, me convient très bien, c'est-à-dire que la conscience, le dogme fait partie de la conscience, la conscience du bien et du mal, etc. Donc là, l'Église est appelée à affiner de plus en plus cette conscience-là. Par contre, pour faire le découpage, il faut découpler, à mon avis, disons l'orthodoxie et puis l'orthopraxie. L'orthopraxie étant ce que les hommes sont capables de vivre et en fonction justement de la nature. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est ça que vous me demandiez. Je sais pas. Je ne me rappelle plus qui a posé la question. Oui. C'est ça que vous vouliez. Oui. Mais c'est-à-dire, le dogme, dès qu'on connaît un peu son histoire, comment il s'est... Moi, je suis un historien des débats, justement. Donc, le dogme devient beaucoup plus compréhensible dès qu'on va au débat ecclésial qui l'a permis, et puis, quand on voit les autres possibilités qui ont été refusées, etc., à ce moment-là, on comprend très bien pourquoi c'est ça qui l'a emporté. Et donc, si on pense ça comme une étape de la conscience humaine, dans l'histoire de la conscience humaine, d'abord, ça devient un parcours palpitant et passionnant, et puis, qui n'est pas achevé, bien sûr, mais on se sent bien. Enfin, moi, en chercheur, je me sens bien. Voilà.
C'est justement parce qu'on sent que vous vous sentez bien qu'on est intéressé sur votre démarche.
Ouais. Je vous remercie pour votre réflexion. Il y a une question quand même que je me pose, peut-être très simple, mais pour vous, où va l'homme ? Où va-t-il ? Parce que vous nous avez parlé de cette histoire des mentalités, cette éducation à la conscience que vous proposez, en tout cas que vous encouragez vivement. Mais pour un étudiant, vous êtes universitaire, quel regard a l'étudiant sur l'homme ? Et pour vous, où va-t-il ? Et qui est-il vraiment ?
Le problème de l'historien, c'est que il n'est pas prophète. Hein. Et c'est une question extrêmement vaste, parce que où va l'homme ? Il faudrait voir dans plein de domaines différents.
la politique, à faire intervenir beaucoup de choses. Alors, je sais pas. On voit des tendances, si vous voulez, aujourd'hui. Et moi, je sais, ma sagesse de l'histoire, ma sagesse chrétienne de l'histoire, je sais que c'est ambivalent. C'est-à-dire que l'homme ira vers le pire et ira, à partir des tendances qui apparaissent aujourd'hui, l'homme ira vers le pire et l'homme ira vers le meilleur. Et donc, ce qui est certain en tout cas, c'est que il vous a dit que je viens de rendre mon habilitation à diriger les recherches, ça s'appelle le christianisme dans ses traversées postmodernes. Bon, et donc ça analyse les choses du point de vue philosophique, puis ça analyse les choses du point de vue de la théologie politique, et enfin du point de vue du rapport de l'ecclésiologie, de l'identité de l'Église. Ce qui est certain, c'est que ça bouge. C'est que ça bouge dans tous les domaines et qu'on est sorti d'un certain nombre d'horizons modernes, de limites modernes, etc. Et donc, je suis, moi, post-moderne, tout à fait. Donc, je pense que ça bouge et le christianisme a bougé et même, on pourrait dire, a été le moteur du bougement. Du bougement. Ça se dit pas ça, mais bon. Vous savez, chaque grande époque de l'histoire est ouverte par un concile. La modernité est liée au Concile de Trente. Et le Concile Vatican II, on le conçoit pas encore comme ça, mais Vatican II ouvre une nouvelle période de l'histoire. Et a eu véritablement un impact tout à fait important dans plein de domaines différents, même si c'est après, les gens, ils vont plutôt retenir mai 68, etc. Enfin, il n'y aurait pas eu mai 68 tel que c'est passé s'il n'y avait pas eu le concile juste avant, etc. Et donc, il y a un côté décisif des choix qui ont été faits par le concile Vatican II. Et donc, notre civilisation qui s'ouvre, là, sera une civilisation du concile Vatican II. D'où l'importance de son interprétation aujourd'hui, de la bataille d'interprétation qui est autour. Et alors, voilà. Je ne veux pas mordre non plus ni sur le temps, ni sur les communications qui auront lieu ensuite, ou peut-être vous aurez à la fin du week-end une vision plus nette de là où peut aller l'homme, aussi bien dans le mur, il va dans le mur, mais pas que, voilà. Non,
oui, parce que face à toutes les évolutions sociétales que l'on voit, on peut vraiment se le demander, c'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment l'arrêter, quoi. En tout cas, qu'il prenne conscience de...
Bah, arrêter, ça veut dire quoi ?
De qui il est...
Arrêtez, attention, parce que c'est ce qu'on dit aussi au chevet du mourant, là. Bon, arrêtons. Oui.
En tout cas, le ralentir, quoi.
Hein ben, non, enfin, plus... moi, ralentir, on peut faire des grands discours, on va ralentir, on va empêcher, on va faire ci, etc. Bon, je pense que tout ça, c'est pareil que des sparadraps sur une jambe de bois, mais donc, vous n'allez pas arrêter avec nos pauvres petits bras le réchauffement climatique, ou je sais pas trop quoi, tout ça nous échappe largement, les processus. Donc, je pense qu'on n'arrêtera rien du tout, que le pire se produira sans doute, hein, mais pas que. C'est-à-dire que, et justement, la mission chrétienne, c'est d'accompagner tout ça et de sauver chaque moment de l'histoire. Donc, de sauver aussi le moment que nous avons à vivre. Peut-être que le réchauffement climatique nous poussera à conquérir l'univers. J'en sais rien. Le catéchisme de l'an 5000, là, il était idiot parce qu'il oubliait l'ambivalence, mais il avait peut-être pas tort de dire qu'il est dans la mission de l'homme de conquérir l'univers. Donc, on peut absolument pas savoir tout ça. Et, disons que quand même les 2000 ans du passé d'histoire de l'Église me conduisent à un certain je suis ni pessimiste ni optimiste, je sais que c'est ambivalent, c'est-à-dire que le pire se passe et les chrétiens le sauvent, hein, voilà. Bon, et c'est donc notre tâche à nous, c'est de sauver le moment qui vient, voilà. On n'arrivera pas à ralentir quoi que ce soit, mais par contre on peut le sauver, hein. Je sais pas, donc je suis pas angoissé, hein, mais chaque jour, il faut vivre. Il y a un autre truc dans ma spiritualité qui est important, c'est l'esprit d'imprévoyance. Regardez les petits oiseaux, ils se préoccupent pas trop. Et donc, déjà, arriver à faire chaque jour ce qu'on a à faire, et le faire bien, bon, après, il faut en laisser pour les autres.
C'est un bon mot pour terminer une intervention. En tout cas, un très très grand merci.